Bonjour, La Poste a un nouveau patron, une patronne en l'occurrence. Suzanne Rouoff a été désignée ce matin par le conseil d'administration du géant jaune pour en prendre la tête dès le mois de septembre prochain. C'est la première femme à diriger l'entreprise, nous dira Romain Cliva dans quelques instants. L'actualité du jour, c'est aussi la balance commerciale de la Suisse qui résiste bien à la crise grâce à la vitalité du secteur de l'horlogerie. Nous parlerons aussi de la traite des êtres humains avec Vincent Bourquin, notre envoyé spécial aux côtés de Simonetta Sommaruga en Roumanie et du décès la nuit dernière de Danielle Mitterrand, veuve de l'ancien président socialiste français. Somos, Ochu, Mare, c'est le titre du deuxième album du quartet roman du même nom enregistré au printemps dernier à La Havane. Créé il y a à peine 3 ans, le groupe mélange les rythmes latino et le jazz avec des concerts sur les principales scènes de Suisse romande. Nous recevrons la chanteuse et violoniste du groupe Gillian Canizares à la fin de ce journal. Le soleil s'annonce généreux cet après-midi sur nos régions avec des maximales comprises entre 7 et 12 degrés en pleine. Le stratus sera plus tenace demain et jeudi, mais les températures resteront douces pour la saison, nous dira Edmé Fleury. Le nom du nouveau directeur de la Poste est donc connu et ce sera une directrice. Le conseil d'administration du géant jaune a désigné ce matin Suzanne Rouoff pour prendre le relais de Jürg Bourer en septembre 2012. C'est la première fois qu'une femme occupera cette fonction. La nomination de cette alémanique de 53 ans est donc une surprise, Romain Cliva.
Oui, ces dernières semaines, comme à chaque nomination, les spéculations allaient bon train. Et une fois de plus, la personne choisie ne figurait pas sur la liste des spéculateurs. Le nom de Suzanne Rouoff n'a guère circulé. Une Suzanne Rouoff qui bénéficie d'une longue expérience dans le monde numérique. Elle a notamment été active pour 2 géants de l'informatique et des télécommunications. Alémanique aux Français hésitants, elle assure que la cohésion nationale fera partie de ses priorités. Preuve par l'acte, elle réside en Suisse romande.
Si je suis à la maison, j'habite à Commentelin depuis 15 ans. Mes enfants sont dans le collège en Sion et j'aime bien le Suisse romande comme le Suisse alémanique. Et je trouve le but, c'est trouver toujours une solution ensemble et ne faire pas le rustique grave.
Bien que sans expérience dans le monde politique, Suzanne Rouoff n'a guère peur de rentrer en contact avec les élus.
Et c'est des hommes et des femmes qui pensent, qui font aussi, qui contribuent pour la Suisse. Et moi, j'ai le même but et on va discuter ensemble pour trouver la solution juste pour la Poste.
Vous avez des relais politiques ?
Je n'ai pas activement des relais politiques, mais je cherche qu'est-ce que c'est nécessaire, c'est clair.
Reste que les différentes fonctions à la tête de la Poste sont très exposées. Pour mémoire, le prédécesseur du directeur actuel avait quitté son mandat après 9 mois seulement à fin 2009. Il était entré en conflit avec l'éphémère président Claude Béglé. Un Claude Béglé qui, quelques mois plus tard, quittait la présidence, lâché par le ministre de tutelle Moritz Leuenberger.
Romain Cliva en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne. Économie encore avec une hausse des exportations, une stagnation des importations pour le mois d'octobre en Suisse. Ce sont les bons résultats enregistrés dans l'horlogerie qui permettent d'éviter le fléchissement des chiffres du commerce extérieur, Estelle Braconnier.
Dans le détail, les exportations connaissent un ralentissement dans leur progression, mais une progression tout de même qui est de 1,5% à 17 milliards de francs. Une croissance donc qui repose uniquement sur l'horlogerie, la métallurgie, l'industrie des machines et de l'électronique et les denrées alimentaires, boissons et tabac. À titre d'exemple, la vente de café progresse ainsi de 23,5%. D'un point de vue géographique, les livraisons en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie sont celles qui se portent le mieux, alors que les exportations vers l'Union européenne ont tendance à stagner. Les importations doivent digérer, elles, le change défavorable des derniers mois et donc une répercussion sur les prix. Prix qui baisse de 7,3% à l'exportation et de 3,2% à l'importation. Au rayon des biens de consommation, les importations de voitures, de tourisme accusent un léger ralentissement. Dans les matières premières, la plupart des secteurs enregistrent un recul, à l'exception des fournitures, de l'horlogerie bien sûr. La Slovaquie et l'Algérie sont des fournisseurs qui s'imposent de plus en plus sur le marché, au détriment de l'Allemagne et du Royaume-Uni.
Simonetta Sommaruga achève aujourd'hui sa visite officielle de 3 jours en Roumanie où il a été principalement question de la lutte contre le crime organisé et la traite d'êtres humains. Il faut dire, Vincent Bourquin, que c'est le pays européen le plus touché par cette forme d'esclavagisme des temps modernes.
Obtenir des chiffres dans le domaine de la traite des êtres humains est bien sûr difficile, mais plusieurs rapports internationaux indiquent que la Roumanie détient le triste record du pays européen le plus touché par ce phénomène. Bucarest conteste être en tête des statistiques, mais reconnaît depuis quelques années que la traite des êtres humains est un problème à combattre, d'autant que c'est très mauvais pour l'image de ce pays membre de l'Union européenne depuis 2007. Les statistiques officielles du ministère roumain de l'Intérieur annoncent que l'an dernier, 1200 Roumains victimes de trafic ont été identifiés, les trois quarts à l'étranger, principalement en Espagne et en Italie. Adrian Petrescu, chef de l'unité de recherche de l'Agence roumaine contre la traite des êtres humains, dresse le portrait type de ses victimes.
Sur la traite pour l'exploitation sexuelle, on avait d'habitude filles, 17 jusqu'à 25. Pour l'exploitation de travail forcé, ils sont de gens jusqu'à 40-45 ans. Et pour la mendicité, d'habitude, ils sont personnes avec disabilité physique et des enfants.
Cette année, 200 personnes ont été condamnées pour trafic d'êtres humains en Roumanie. Les peines varient entre 3 et 5 ans. C'est beaucoup moins qu'en Suisse où la traite est considérée comme un crime très grave. Vincent Bourquin, Radio Suisse Romande, Bucarest.
Daniel Mitterrand est décédé la nuit dernière à Paris à l'âge de 87 ans. La veuve de l'ancien président français François Mitterrand avait été hospitalisée vendredi et placée dans un coma artificiel. Elle s'est notamment illustrée par ses combats en faveur de la défense des droits de l'homme et des peuples opprimés. Mehmet Gültaş.
Ancienne résistante, éternelle militante, Daniel Mitterrand ne s'est jamais rangé, comme on dit. Première dame de France, je ne suis pas une potiche, avait-elle prévenu. Et elle a tenu parole. Tout en se pliant au protocole de l'Élysée, celle que certains surnommaient la gauchiste n'a pas hésité à militer en faveur des Kurdes, des Tibétains, des guérilleros salvadoriens ou des apatistes mexicains, jusqu'à embrasser le dirigeant cubain Fidel Castro sur le perron de l'Élysée. Une indépendance d'esprit et une liberté de comportement qui auront provoqué quelques tensions diplomatiques avec certains États. « C'est ma conscience de gauche », avait dit d'elle François Mitterrand, « une conscience qui ne s'assagira jamais ».
On peut passer sur Terre en étant indifférent à tout, et ça existe. Et puis il y a ceux qui regardent autour d'eux, qui se révoltent devant les injustices, qui voudraient aider à plus de solidarité, plus d'échanges, plus de confiance. Or, aujourd'hui, on voit bien que la stratégie de la politique de la peur a pris une ampleur considérable. On fait peur aux gens. On a peur, on a peur, on a peur tout le temps, et on finit par être écrasé par la peur. Et on ne réagit plus.
Daniel Mitterrand, elle, continuera de réagir à travers sa fondation France Liberté, qui vient de fêter ses 25 ans. « La vie me donne toute la puissance et la force de réagir », disait-elle, pour expliquer son énergie inépuisable jusqu'à la nuit dernière. Mehmet Gültaş, Radio Suisse Romande, Paris.
Après trois jours de violence entre manifestants et forces de l'ordre, les frères musulmans d'Égypte ont annoncé ce matin qu'ils allaient rencontrer aujourd'hui le pouvoir militaire. Les affrontements de ces derniers jours ont coûté la vie à 26 personnes. Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a estimé ce matin que le président syrien Bachar al-Assad devait démissionner pour le bien de son peuple et de la région. C'est la première fois qu'Ankara appelle clairement comme ça au départ du dirigeant contesté. En Tunisie, la première réunion de l'Assemblée constituante issue des élections du 23 octobre s'est ouverte ce matin au siège de l'ancienne Assemblée nationale. Un millier de manifestants se sont réunis devant le bâtiment pour demander des garanties sur les libertés. Et puis le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé ce matin à Tripoli pour rencontrer les nouvelles autorités libyennes quelques jours après l'arrestation de Saïf al-Islam Kadhafi dans le sud du pays. Le Conseil national de transition a fait savoir dimanche qu'il souhaitait organiser lui-même les procès contre les anciens dirigeants du pays. Retour en Suisse avec l'ouverture ce matin à Neuchâtel du procès du meurtrier présumé de la jeune Marie, cette lycéenne de 19 ans, poignardée à 23 reprises par son ex-petite amie l'an dernier. Un drame qui avait ému toute la région à Noukhanri.
Oui, et la foule qui se pressait ce matin à la cour d'assises témoigne de l'impact de cette affaire à Neuchâtel. Des dizaines et des dizaines de jeunes, amis ou camarades de Marie, sont venus en plus de la famille. Des jeunes qui, l'année dernière, avaient organisé une marche silencieuse en hommage à la défunte. C'est bien l'histoire de jeunes d'ailleurs, presque encore adolescents, qui a conduit à cette histoire tragique. Frêle, sagement habillé, le prévenu a l'air d'un collégien modèle. Son interrogatoire ce matin a consisté à décortiquer une amourette entre deux tout jeunes adultes faites de tromperies, de cadeaux et de virées à Europa Park. Marie avait rencontré son ex-petite amie, un Suisse allemand de 19 ans, au lycée, et tous deux habitaient encore chez leurs parents. Ils ont entretenu pendant quelques mois une relation houleuse. Pourtant, les faits du 24 novembre 2010, suite à leur rupture, ont été d'une violence rare. rare, Marie a été poignardée à 23 reprises chez elle avec un couteau de cuisine que son ex avait emporté de son domicile. C'est ce dernier élément, ainsi qu'une vidéo dans laquelle il menace de la tuer, qui justifie l'accusation d'assassinat, c'est-à-dire avec préméditation. La défense conduite par l'avocat Jacques Bastan se montrait offensive en contestant la procédure et en mettant en doute l'impartialité de la cour, car les faits sont accablants et Maître Barillon a lui-même reconnu n'avoir que peu d'armes pour la défense. Il a attaqué en vain l'expertise psychiatrique, car c'est peut-être uniquement en plaidant l'irresponsabilité que le prévenu pourra peut-être échapper à la peine maximale.
À Genève, c'est un objet complexe qui est soumis à votation dimanche prochain. La nouvelle loi sur l'aide sociale prévoit notamment la fin du revenu minimum cantonal d'aide sociale au profit de mesures de réinsertion plus importantes. Un texte largement soutenu au Grand Conseil, mais contesté par référendum, Sylvie Belzer.
Oui, l'objectif de cette nouvelle loi est de mieux réinsérer les personnes à l'aide sociale et les chômeurs en fin de droit. En clair, réinsérer davantage et plus rapidement, en tout cas dans la mesure du possible. Et les outils pour y parvenir, ce sont des stages d'évaluation, des allocations de retour en emploi et de formation, enfin des emplois de solidarité pour les chômeurs les plus précarisés, ceux qui n'ont que peu ou très peu de qualifications. Mais adopter ces mesures, c'est aussi renoncer au revenu minimal cantonal d'aide sociale, aujourd'hui pas lié intermédiaire entre la fin des allocations chômage et l'aide sociale. C'est donc réduire encore les prestations financières, ce qui a provoqué une levée de boucliers. Pour le comité référendaire, c'est une façon de punir les victimes plutôt que de combattre le mal, à savoir le chômage. Du côté des prises de position politique, l'ensemble de la droite est favorable à cette nouvelle loi, y compris le mouvement citoyen Genevois. Elle est par contre combattue par la gauche et l'extrême gauche.
Sylvie Belzer du bureau Genevois de la radio suisse romande.
Le 12-30, David Racana.
Trouver un marché paysan, un produit du terroir ou un gîte à la ferme. Il y a désormais une application pour ça. Créée par Agir, l'agence d'information agricole romande, cette nouvelle appli pour iPhone permet aussi de tout savoir sur le monde paysan. Et vous l'avez testé pour nous, Claude Defago.
Savez-vous, David, combien de vaches à lait compte la Suisse ? Non, c'est 600 000. Et ce chiffre, si vous êtes d'humeur ludique, vous le trouverez sur le quiz de cette application. Mais il se peut alors qu'une petite faim vous guette et qu'un menu convenience food au micro-ondes ne vous enchante guère, l'icône « Recherche et carte » vous conduira au marché paysan le plus proche de chez vous. Pas le temps d'y aller, hop, à la ferme vous permet de commander un panier livré à domicile. Et si après ça vous devez vous remettre, rien de plus facile que de trouver une belle randonnée en campagne, ponctuée, qui sait, par une nuit à la ferme. Avant de vous endormir, un coup d'œil sur l'actualité paysanne du jour et vous saurez que les rejetis à la bernoise ont été mis sur la liste des traditions vivantes du canton de Berne. Pour l'instant, cette application n'existe que pour l'iPhone et en français. Un accès via Android est prévu l'an prochain. S'agissant d'un projet pilote roman, de son succès dépendra l'extension au reste de la Suisse et à d'autres langues.
Et on en parle avec vous, Olivier Boyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des concepteurs de cette nouvelle application. Votre rôle a été déterminant puisque vous êtes en charge du concours suisse des produits du terroir qui a lieu tous les deux ans dans le Jura et qui recense les adresses donc des producteurs médaillés. Comment il est né ce projet ?
Le projet, justement, il est né avec la campagne des paysans suisses, proches de vous les paysans suisses, qui ont cherché à mettre en lien les citadins et citoyens de Suisse avec les produits de la ferme, les produits du terroir qu'on trouve sur de nombreuses fermes. Et j'ai pu rejoindre le projet en y apportant pas moins de 1500 adresses ou produits qui sont les produits médaillés des quatre derniers concours suisses des produits du terroir, autrement dit les meilleures adresses de Suisse.
C'est quoi finalement le but ? Mettre en valeur les produits et les producteurs ?
Le but, tout à fait, c'est de faire revenir les gens sur les exploitations agricoles et d'en faire notamment du commerce et de l'information. Du commerce parce qu'on y trouve, notamment sous le concept de la vente directe ou de l'agriculture contractuelle de proximité, des moyens d'acheter ces produits tout près de chez soi. Et on ne sait souvent plus que tout près de chez soi, il y a justement une telle spécialité ou tel panier de produits du terroir, tel hébergement. Et on souhaite réinstaurer ce réflexe dans un but de protection des emplois ou de maintien d'emplois de transformation et d'agriculture.
L'application propose des centaines d'adresses et permet, grâce à la géolocalisation, de dénicher des adresses à proximité de l'endroit où on se trouve. Vous avez dû faire un classement par produit, également par région. C'était compliqué à mettre en place.
C'était pas compliqué parce que depuis les 4 éditions du concours suisse des produits du terroir, nous avons les adresses de ces meilleurs producteurs avec les adresses postales. Il suffisait de les géoréférencer, c'est-à-dire de les attribuer à un point du territoire, et puis de les classer par canton, par type de produit, par géographie justement, pour que vous puissiez savoir, et c'est ça qui est génial avec la nouvelle application, que vous puissiez savoir ce qu'il y a à gauche ou à droite de votre point actuel partout en Suisse, quelles sont les meilleures adresses.
Les producteurs risquent quand même de faire face à des demandes très importantes. En tout cas, si cette application marche beaucoup, ça peut peut-être se faire aussi au détriment de la qualité. C'est un effet pervers que vous avez envisagé ?
On n'y est pas encore. Donc les producteurs cherchent justement à accroître leur part de marché en vente directe notamment, pour des fins économiques. Par exemple, un fromage comme la tête de moine, c'est 300 emplois qui sont derrière. Donc, il y a quand même un certain chiffre d'affaires à avoir. Les effets négatifs que vous évoquez ont déjà vu le jour, justement. Il y a parfois que certains producteurs, j'en ai en tête, qui ne produisaient plus la qualité. Et par l'aspect médaille du concours suisse des produits du terroir, s'est vu retirer sa médaille d'or parce que ce produit était bâclé en grande quantité. Donc, on a les moyens pour veiller, notamment par les contrôles qualité qui sont liés aux produits du terroir, pour veiller à éviter ces dérapages.
Ça veut dire que les adresses et les informations contenues dans cette application seront régulièrement mises à jour ?
Oui, mises à jour chaque 2 ans par les concours suisses des produits du terroir, par les gens qui font des médailles, et surveillées, car nous n'avons pas envie qu'une médaille que nous avons attribuée maintenant à un excellent produit suisse se retrouve en mauvaise qualité sur les étalages. Et lorsqu'il y a un problème, cette marque concours suisse des produits du terroir ou cette médaille peut être retirée à une personne, signe que la qualité n'est plus garantie. On a mis en place un système avec les chimistes cantonaux et un organisme de certification pour ce faire.
À qui elle s'adresse finalement, principalement, cette application ?
À tout le monde qui voyage en Suisse et puis qui est moderne, donc qui a besoin de savoir ce qu'il y a à sa gauche, à sa droite, à ces personnes qui retournent aux valeurs, qui prennent le temps de pousser la porte d'une ferme, d'un magasin, qui veulent aller à la rencontre de ses meilleurs produits médaillés, à toute personne qui fait du tourisme en agriculture et qui se souvient qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se régaler les papilles, le paysage ou pour toute autre activité en relation avec nos valeurs rurales.
Merci beaucoup Olivier Boyer d'être venu quelques minutes dans ce journal.
Merci,
en direct de nos studios de Delémont, responsable donc du concours suisse des produits du terroir, dont les résultats sont compilés dans cette application iPhone créée par l'agence d'information agricole romande. Vous répondiez à l'invitation de Gaël Klein. Bon après-midi à vous, merci beaucoup.
Au revoir, merci.
Tennis, Roger Federer affronte Rafael Nadal ce soir à Londres pour le 2e match du groupe B des Masters, avec un pas de plus vers les demi-finales pour le vainqueur de la rencontre. Le Balois et l'Espagnol ne se sont plus affrontés depuis la finale de Roland-Garros-Servet-Boursier.
Si l'affiche n'a peut-être tout à fait plus la même saveur du temps où les deux hommes dominaient outrageusement le tennis, numéro 1 et numéro 2 mondiaux, ils se retrouvaient logiquement plus souvent en finale. Mais désormais, Novak Djokovic étant passé par là et ayant pris du même coup la place de numéro 1, les deux joueurs s'affrontent plus rapidement dans les compétitions, mais le plaisir est toujours au rendez-vous. Les deux hommes, on le sait, se respectent, même si sur le court, ils ne se font pas de cadeaux. La rencontre de ce soir demeure toutefois très intéressante dans la mesure où Roger Federer manque de repères depuis l'US Open par rapport aux 3 meilleurs joueurs du classement. L'Espagnol, lui, a peu joué depuis début octobre. Il est dans le même cas. Le public de l'Arena de Londres sera sans doute partagé entre ces deux grands joueurs auxquels jusque-là ils ont réservé une ovation plus chaleureuse qu'au Britannique Andy Murray. Hervé Borsier, Radio Suisse Romande, Londres.
Que faire après l'apocalypse ? C'est à cette question que le musée d'ethnographie de Neuchâtel se propose de répondre à travers une exposition qui croise les regards d'ethnologues et d'artistes. Michel Masseret.
La dernière exposition du musée d'ethnographie de Neuchâtel explorait les politiques de sauvegarde et de conservation. C'est donc fidèle à cette thématique que l'institution récupère les structures de son ancienne proposition pour nous plonger dans l'après-catastrophe. Une part de la muséographie a été ainsi ludiquement recyclée. Question apocalypse, le musée couvre le thème dans un sens large, évoquant tant la catastrophe de Tchernobyl que le printemps arabe, les exils de population ou la crise économique actuelle. Plutôt que d'aborder ces questions sous un angle strictement scientifique, le musée a décidé de mêler les regards et d'exposer le travail de 3 artistes autour de cette même thématique. Grégoire Mayor, conservateur adjoint.
Depuis assez longtemps, nous avons l'habitude de brouiller les frontières et de travailler sur les frontières et les catégories. Il se trouve que les regards posés par les artistes ici nous intéressent aussi comme des productions culturelles et comme un regard qui, d'une certaine manière, est proche aussi d'un regard ethnographique. Les deux ont travaillé avec du matériau de notre société. Ils ont essayé de poser, par leur production, des formes d'analyse du monde, de la manière dont ils perçoivent le monde.
Deux œuvres monumentales sont exposées, l'Atomic Submarine de François Burlon, un submersible de 18 mètres, bricolé en bois et en fer blanc, quelque part entre le jouet et la maquette de savant fou, cet engin semble avoir survécu à plusieurs catastrophes. Dans un autre espace, le visiteur découvre le Bastocalypse de M.S. Bastion et Isabelle L. Il s'agit d'un gigantesque panorama de plus de 50 mètres qui explore l'apocalypse dans une esthétique entre BD de science-fiction, expressionnisme et imagerie chrétienne. À ces univers fascinants répondent des installations sonores ludiques. Le musée a sélectionné une quinzaine de chansons et d'airs très divers abordant cette même thématique. Le visiteur lance les musiques en posant son pied sur les différentes marches.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va sur la montagne.
Un contrepoint amusant à une exposition vibrante et conceptuelle que l'on visite le sourire aux lèvres et l'esprit constamment en éveil.
Et de la musique encore, mais dans un registre un peu différent, écoutez.
Maracuchito. Yo ando buscando tranquilidad y tú aferrado al tema. Ya no me dejas ni respirar y eso es tremendo problema. Ya se comenta por Maracaibo la penosa situación. Y rueda el chisme por todo el barrio sin ninguna discreción.
Et cette voix, c'est la vôtre, Gillian Canizares. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse et violoniste au sein du groupe roman Otxumare, qui sort son deuxième album ces jours-ci, Somos Otxumare. Un album enregistré au printemps dernier à La Havane, dont vous êtes originaire. Comment vous définiriez d'abord votre musique ?
C'est un grand mélange. C'est un mélange entre les traditions musicales latines, la musique européenne aussi et les influences jazz. On aime beaucoup s'amuser justement avec les influences de chaque membre du groupe et faire quelque chose qui nous ressemble.
Otxumare, c'est un quartet justement. Vous pouvez nous dire un mot sur les membres du groupe et comment la formation a été créée ?
Alors on s'est rencontrés tous ici en Suisse. Le batteur est Cyril Régamet, originaire de Lausanne. David Brito à la contrebasse, qui habite d'Élément et qui est vénézuélien d'origine. Et au piano, c'est Piti Cabrera, c'est un ami d'enfance cubain qui habite Paris actuellement. Donc voilà, on s'est tous retrouvés par ici.
Comment se passe la composition des titres de l'album ? Qui fait quoi finalement ?
Alors, pour cet album, la plupart des titres sont signés par moi. Il a aussi trois titres qui sont composés par David. Mais en gros, tout le monde met du sien parce que les arrangements, on les fait ensemble. Donc voilà, c'est un travail d'équipe.
Alors on sent évidemment l'influence des Caraïbes dans ce disque, mais vous aimez brouiller les pistes aussi, varier les plaisirs ?
Tout à fait, oui. On a pas envie de faire des choses qui ont été déjà faites très très bien. Donc on a envie aussi de mettre notre touche personnelle. Typiquement, les thèmes qu'on entend, c'est vraiment inspiré de la musique de la campagne, mais revisité avec des couleurs jazz et un petit peu aussi des harmonies un petit peu plus modernes.
On va dire un mot de votre parcours, Gillian Canizares. Vous êtes née à La Havane, vous avez fait le conservatoire en jouant du violon, arrivé en Suisse il y a 11 ans pour perfectionner votre formation musicale du côté de Fribourg. Vous donnez aujourd'hui des cours à l'école de jazz et de musique actuelle à Lausanne. La musique, c'est une vraie passion pour vous ?
Oui, tout à fait. J'ai commencé depuis toute petite, depuis que j'ai 3 ans, là, je fais la musique. Et donc voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir fait un parcours dans ma passion et de pouvoir transmettre ça au public.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé comme ça de rester en Suisse après ces études et de ne pas retourner à Cuba ?
Ah, c'est par amour. J'ai connu mon mari. Donc du coup, voilà, c'est la Suisse, ma terre d'adoption.
La musique latino, c'est un genre exotique, dépaysant pour les Européens que nous sommes. Est-ce que vous pensez que vous pourriez arriver à en vivre de cette musique, du groupe en tout cas?
Moi, je pense que le public européen est très ouvert. Ils sont très ouverts, pas seulement à la musique latine, mais à la musique world en général, africaine. Ils sont très ouverts à tout. Et en tout cas, dans nos concerts, on n'a pas un public qui est ciblé seulement latin, mais on a vraiment des gens de partout, tout âge, qui viennent vraiment nous écouter. Donc, il n'y a pas de souci pour ça.
Comment s'est passé l'enregistrement de cet album comme ça à Cuba? C'est facile déjà d'aller là-bas pour l'enregistrer? Et puis, quels sont les moyens à disposition au niveau des studios de...
Alors, on était dans un très bon studio. C'est vraiment les meilleurs studios qu'il a maintenant à Laval. Tous les studios n'ont pas les conditions qu'il a dans ces studios ici. On a fait ces choix parce qu'on voulait vraiment avoir l'ambiance de Laval dans ces disques. Par contre, c'est vrai que niveau organisation et tout, c'était très difficile. Heureusement, on a une personne qui nous a beaucoup aidé sur place parce que la façon de travailler est très différente entre la façon européenne et la façon latine. On s'est très bien en sortie. Finalement, tout a marché vraiment sur des roulettes. Mais c'est vrai qu'on avait peur par rapport à ça, dès que les choses, il y a un petit décalage culturel.
Alors justement, vous avez des exemples comme ça à nous donner de ce décalage culturel, comme vous dites?
Bon, l'exemple le plus clair, c'est vraiment l'horaire. Hein. Ici, c'est vraiment, comme on dit, 9h, c'est 9h. Là-bas, parfois, 9h, ça pourrait être 11h30, midi, 1h. Donc voilà, on a dû faire avec. Mais ça fait aussi un petit peu les charmes de cet enregistrement. Ça veut dire qu'on a vraiment été sur place et on a pu jouer vraiment avec cette culture-là. Et c'est ça qu'on a envie de faire.
Tous les morceaux étaient prêts quand vous êtes parti pour Cuba? Vous les aviez déjà travaillés avant? Ou est-ce que vous vous êtes quand même laissé influencer et imprégner de cette ambiance cubaine lors de l'enregistrement?
Alors, les compositions étaient prêtes, mais c'est vrai que justement sur place, on a donné des touches qu'il n'avait pas avant. Typiquement, les joueurs des 13 que vous entendez, la petite guitare cubaine, ça c'est quelque chose qui s'est improvisé à la dernière minute. On était en voiture, on a dit « Ah, mais on va inviter quelqu'un » et tout d'un coup, on a pensé à lui. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Pareil pour notre autre invité, Julito Padrón, à la trompette. C'était vraiment sur place, un petit peu à la dernière. Donc, c'est tout. C'est justement pour ça qu'on voulait être sur place, parce qu'il a plein d'idées qui sont venues et qu'on a utilisées pour les disques.
Et c'est peut-être justement un des avantages d'enregistrer comme ça à la méthode cubaine, on va dire. Ça veut
Exactement.
Dire qu'on arrive à trouver quelqu'un comme ça et lui dire viens enregistrer sur le disque qu'on est en train de faire.
Exactement, voilà. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas programmer, il ne faut pas boucler l'agenda avec 6 mois à l'avance, mais simplement tu rencontres la personne dans la rue, elle est libre. Bien, on va avoir un verre, on va enregistrer, ça se passe comme ça.
Vous avez tourné sur les principales scènes de Suisse romande, aussi à l'étranger, France, Venezuela, Espagne, Cuba. Une tournée est prévue, je suppose, pour la sortie de ce nouvel album?
Oui, alors là, on a trois dates en Suisse romande. C'est samedi au Chorus de Lausanne, le samedi 3 décembre au Chat Noir de Genève, et ensuite le samedi 10 décembre à la Spirale de Fribourg. Et pour l'année prochaine, une sortie est prévue pour le reste de l'Europe. Et là, je vous donnerai plus de précisions.
C'est comme ça que vous préférez finalement faire partager votre musique quand vous êtes en concert en direct avec le public, en face de vous?
Oui. Rien ne vaut un concert en live, même si le disque est magnifique et on est très très content de ces disques. L'énergie qui dégage un concert en live est irremplaçable. Donc voilà, il faut vraiment venir et nous voir, pas seulement nous écouter.
Merci beaucoup Gillian Canizares d'être venue quelques minutes en direct dans ce journal, chanteuse et violoniste du groupe Otchoumaré qui sort donc son deuxième album ces jours-ci. Merci beaucoup et
merci
bon après-midi
à vous.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en hausse de 0,2% à 5489 points et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Edmé Fleury.
Une langue de brouillard s'est formée de la région des Trois Lacs à Genève. Elle s'est déjà dissipée sur Lausanne et sur Fribourg. Cet après-midi, le soleil devrait s'imposer partout, malgré des poches de grisaille plus tenaces par endroits sur le plateau. Les températures sont particulièrement douces en moyenne montagne, jusqu'à 13 degrés à 1000 mètres. En plaine, elle varie selon l'ensoleillement, de 7 à 10 degrés sur le plateau, jusqu'à 12 en Valais. L'anticyclone n'est pas prêt de céder sa place sur nos régions. Ces conditions stables vont durer une bonne semaine encore. Demain matin, sous l'effet d'une légère bise sur le plateau, le sommet de la grisaille va remonter. Ce stratus sera plus tenace. Dissipation partielle et locale dans l'après-midi. Côté température, peu de changements en plaine. À l'aube, de 0 à 2 degrés, moins 3 en Valais, de 7 à 10 degrés au maximum, 3 degrés à 2000 mètres. Même topo jeudi, stratus sur le plateau qui peinera à se dissiper. Au-dessus de 1200 mètres et partout ailleurs, soleil omniprésent.
La météo avec De Villard, du photocopieur à la gestion électronique des documents.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Demain, nous recevrons Philippe Ligron, professeur de cuisine et d'histoire de l'alimentation à l'école hôtelière de Lausanne, à l'occasion de la journée spéciale alimentation sur les ondes de la Radio Suisse Romande et sur la TSR. Ce journal de la mi-journée sera diffusé dans quelques secondes sur Espace 2. Vous pouvez le réécouter en tout temps sur notre site internet rsrinfo.ch. Il est 13h.